Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, donc cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui à la technique Henri Bérec et Ludovic Asselot, et assisté de Céline Bézy, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Cyril Métro qui réalise cette émission. Tout d'abord, parce qu'on n'était pas là évidemment le jour du 24 et du 25, bon Noël à tous, j'espère que vous allez bien, prenez votre temps, si vous êtes sur la route, soyez surtout prudents, on tient à vous, mais oui, et avec une petite humeur dédiée aujourd'hui aux rennes du Grand Nord, donc des animaux sympathiques, à qui l'on demanderait bien un coup de main, nous aussi, plutôt que de courir les magasins avec des cadeaux dans les bras. Noël, vous savez ce que c'est, on se bouscule sur les routes et dans les gares, en attendant les Eurostars qu'on n'a pas vaccinés contre le froid, et qui nous font ces temps-ci une petite épidémie de court-circuit. Un Noël 2009 particulièrement généreux, d'ailleurs avec les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières et leurs bataillons de climato-sceptiques qui ont reçu leur cadeau, mais oui, 10 jours avant tout le monde à Copenhague, c'était formidable, rappelez-vous, c'était déjà Noël avec au pied du sapin un chèque en blanc signé par la Chine et les États-Unis qui se renvoient la patate chaude des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, cracheurs de CO2 de tous les pays, réjouissez-vous. Et pour ce qui est des aléas climatiques, alors là, pas de souci, on refile le bébé aux banques et aux assurances, les Goldman Sachs et les autres, qui ont déjà flairé le bon filon et qui nous camoufleront tout ça vite fait dans des produits à risque qui s'écouleront comme des petits pains sur les marchés financiers. On prend le pari, je vous jure que si. Le grand emprunt sur la nature, on le sait, c'est pas nous qui le rembourserons. En attendant donc la cotation en bourse des glaces du Groenland, et ben rendez-vous, ce sera tout à l'heure sur place avec Stéphane Combe du côté de 14h30 pour un état des lieux donc sur le Groenland. Et puis n'oublions pas qu'à la grande loterie du changement climatique, il y a aussi des gagnants, ouais, avec le quartet suivant, Russie, Scandinavie, États-Unis et Canada, qui comptent bien transformer en grenier à blé les territoires gelés du Grand Nord. De vastes étendues, tout juste capables pour l'instant de nourrir quelques troupeaux de rennes et de caribous, mais qui réveillent déjà les appétits des boursicoteurs, est-ce ressources naturelles ? Pensez donc des sols garantis 100% bio qui n'ont jamais entendu parler de nitrate ni de Monsanto. Waouh ! Et on trouve encore par-ci par-là, nous dit-on d'ailleurs, quelques crottes de mammouth parfaitement conservées. Ouais, des vestiges qui ont récemment permis à une équipe de chercheurs américains de prouver que l'espèce humaine avait débarqué en Amérique du Nord un bon millier d'années après la disparition des mammouths. Et donc que non, pour une fois, ce n'est pas nous qui avons exterminé ces sympathiques herbivores, il y a quand même d'excellentes nouvelles. Et si dans 12 000 ans, hein, plus tard, on sauvait aussi les rennes du Grand Nord, ce serait pas une bonne idée ça ? Alors au menu de cette émission, ni dinde ni saumon d'élevage, mais du plaisir quand même. Bah oui, parce que l'écologie emmerdante et punitive, c'est quand même moyennement notre truc, vous le savez. Je vous aide à déballer vos cadeaux nature de fin d'année avec tout d'abord ceci.
J'ai été à Bourgueil avec mes meilleurs amis, avec Depardieu, avec Richard, avec plein de grands amis à moi. Hein. Il y a toujours un moment où on me laisse sur la place de Bourgueil devant la maison, car on sait qu'il se passe quelque chose.
Voilà, nous avons retrouvé cette voix, Jean Carmet, paysage de bord de Loire. Et dans le grand froid, ça va être ?
Quand on parle de nature, si tu veux, là, ça a un sens, parce que quand tu regardes autour de toi, il n'y a personne, il n'y a pas un pylône, il n'y a pas une trace d'avion, il n'y a rien, quoi. Et c'est la nature, au sens profond du terme, qui existe que parce que tu la regardes.
Nous serons dans le Groenland, nous serons sur une langue glaciaire, on vous fera découvrir cette langue glaciaire en compagnie de Stéphane Combe. Je vous avais parlé des Vosges, ben nous y voici.
Echterum.
Voilà, vous avez vu
le principe. Attention, vous êtes dans la trajectoire. Attention, attention, sauvez-vous vite.
Là, il faut expliquer que le tronc est parti tout seul. Mais il n'y a pas de dégâts.
Non, mais c'était prévu, mais.
Mais
pas
oui.
Tout à fait là,
bah, c'est ça, c'était pas tout à fait là. Fallait pas être là avec son micro. Hein. C'est quand même toujours extrêmement dangereux. Parfois, les reportages sur France Inter, débardage dans les Vosges. Nous serons dans le parc naturel du Ballon des Vosges. Et nous allons débuter avec Jean-Marie Pelt. C'était là. Mais vraiment, hein, c'était vraiment. C'est du chaud, en fait, c'était plutôt du froid. Nous sommes dans le jardin de Jean-Marie Pelt, un soir d'hiver rempli de neige et d'étoiles. Ah ben je vais rejoindre Jean-Marie dans la neige qui est en train de fondre donc chez lui en,
En Moselle, voilà, ça y est Jean-Marie. J'ai un peu de mal à venir jusqu'à vous parce que nous sommes quand même en pleine nuit. Noël est passé. Et donc on se retrouve chez vous, dans votre jardin. Donc il faut faire attention, on met les pieds. Hein.
Oui,
voilà.
Mais c'est tout gonflé.
Ouais.
C'est l'herbe est toute gonflée par la neige.
Oui, oui, oui.
C'est vous, c'est l'étoilé. Hein.
Alors là, c'est drôlement bien oui, parce que...
C'est miraculeux.
Oui.
Il a fait mauvais pendant longtemps et on a l'incroyable chance d'avoir un ciel étoilé comme chaque fois qu'on fait notre promenade dans le jardin.
Oui.
C'est étonnant. Hein.
Alors ça nous renvoie peut-être aussi à une notion qui vous est chère, c'est-à-dire la diversité. Alors diversité humaine, diversité végétale et puis aussi diversité des étoiles.
Oui, parce que j'ai inventé un mot,
ah.
Cosmodiversité. Parce que les astrophysiciens s'aperçoivent qu'en fait, il n'y a pas deux astres pareils dans l'univers. Dans l'univers, il y a beaucoup de monde. Dans notre galaxie, il y a 234 milliards d'étoiles.
D'accord. Et on a combien de galaxies ?
Plusieurs... 130 milliards.
Ah oui.
Bon. Alors, on va en tirer comme conséquence que nous sommes tout petits, tout petits, tout petits sous le grand ciel étoilé. Et même notre système solaire, en fait, il est tout petit, tout petit. Et nous sommes très fiers de notre système solaire. Alors là, j'ai repéré un astre. Très extraordinaire. Vous levez le regard au ciel, et ben vous ne le voyez pas. Parce que c'est une naine. On appelle ces astres des nains ou des naines. Ce sont des petites planètes. On a classé dans ce groupe Pluton. Pluton qui était jusqu'à très récemment la plus grosse des petites planètes, qui ne doivent plus s'appeler planètes. Pluton a été rayé de la liste des planètes et il s'appelle maintenant une naine. Eh bien voilà, alors Pluton, il a été détrôné par Xéna, qui est plus gros que Pluton, mais qui est beaucoup plus loin que Pluton, et qui tourne autour de la Terre en 560 ans. Pluton il tourne autour de la Terre en 269 ans.
Oui, c'est rapide.
Donc on attend de voir venir quand on est sur Pluton. Mais alors, il y a un astre qui est un phénomène extraordinaire. Il porte le nom de la déesse des océans glacés des Inuits, qui étaient les anciens Esquimaux, on disait autrefois Esquimaux. C'est Sedna. Alors Sedna, quand Sedna est tout près du soleil, eh bien, elle est 76 fois plus éloignée du soleil que nous. Et quand Sedna est très loin du soleil, elle est à 1018 fois plus loin que la distance Terre-Soleil. Donc Sedna va très, 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 très loin. Elle fait le tour du Soleil en 10 000 ans. C'est-à-dire que la dernière fois qu'elle est passée près de la Terre, c'était il y a 10 000 ans.
On commençait à peine l'agriculture.
Et en fait, elle va revenir près de la Terre dans 67 ans.
D'accord.
Mais on ne la verra pas, cette naine, parce qu'elle sera quand même... à 76 fois la distance de la Terre au Soleil, donc très très loin. Mais moi j'ai bien aimé Sedna parce que c'est une planète, plutôt une naine, qui est audacieuse, parce qu'elle va très loin, très 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 loin. Et elle prend tout son temps pour faire un tour autour du Soleil, voilà.
Moi je regarde le ciel avec comme ça un peu de poésie, je me dis, bon, on voit cette Voie lactée. Là il y a peut-être aussi vos constellations préférées, quoi.
Orion.
Orion, ah oui.
Avec l'extrémité d'Orion, vous voyez, nettement en dessous d'Orion, vous voyez cette étoile très forte qui scintille un peu, c'est Sirius.
Ouais, ouais.
C'est une des étoiles qu'on ne voit en fait qu'en hiver.
En hiver, celle-là.
Orion aussi, on ne le voit qu'en hiver. Et le grand triangle de l'été, comme son nom l'indique, on ne le voit qu'en été.
Oui.
Parce qu'il bascule vers le nord à cette période de l'année. Et là, nous sommes pratiquement au solstice d'hiver.
Même en hiver, ce pays est beau, même si les oiseaux sont de proie. Merveille sur terre, qu'un champ plein d'agneaux, dont la laine tient chaud dans le froid. derrière les nuées, derrière les nuages. Hiver astral, les étoiles sont loin et le vide est interminable.
Mais ce qui veut dire que maintenant, on est en train de se dire qu'on va avoir nos jours qui vont rallonger.
Ah oui, les jours vont rallonger. Et en réalité, la nuit de Noël, le 24 décembre au soir, les Romains fêtaient le soleil invaincu, sol invictus. Le soleil était invaincu parce qu'il allait recommencer à monter dans le ciel. Et on a choisi cette date pour fêter la naissance du Christ, parce qu'on ne sait pas le jour où le Christ est né, mais on a choisi cette date parce que les Romains considéraient que c'était le retour à la vie. Le retour à la vie grâce à la montée en puissance de nouveau du soleil. Sol invictus, c'est devenu Noël.
Et ces rythmes-là, Jean-Marie, on les ressent dans le corps ?
Ah oui, les anciens considéraient que la période qui commence avec le solstice d'hiver et qui continue, disons, jusqu'à ce que le soleil soit nettement de nouveau remonté et que ça soit perceptible avec la longueur des jours et des nuits, ils appelaient ça les 12 jours qui correspondaient à 12 mois de l'année.
D'accord.
Et ils les appelaient les 12 petits mois. Et pendant cette période des 12 petits mois, la vie devait être tout à fait calme. Les roues ne devaient pas tourner. On ne devait pas aller dans les champs. On devait rester au bord de l'âtre, bien au chaud. Et voilà que maintenant, c'est exactement le contraire.
On se repose en été.
On se repose en été et on s'agite en hiver. Et quand on a un peu de vacances en hiver pour Noël, alors on court au sport d'hiver et on s'agite encore plus. Parce que plus il fait froid, plus on s'agite.
Jean-Marie, là, de l'association d'idées, en regardant le ciel, il y a une plante qu'on appelle l'étoile de Noël, et puis aussi la rose de Noël. Alors, parlez-nous-en, pourquoi on les nomme ainsi ?
Alors, la rose de Noël, c'est un hélébore, en réalité.
Oui.
C'est une plante qui a cette rare propriété, elle est toute seule dans son cas, de faire ses fleurs en plein hiver.
Mmh.
Et c'est la raison pour laquelle elle est souvent plantée dans les cimetières. C'est là qu'on la voit le plus souvent. Alors à côté, il y a les pensées aussi qui arrivent à résister sous la neige. Peut-être qu'elles méditent quand elles sont sous la neige. Elles pensent, c'est plutôt ça qu'on appelait les pensées. Alors l'étoile de Noël, c'est le poinsettia, ça c'est autre chose. C'est cette plante qui a à l'extrémité des feuilles d'un rouge vif, un peu plus bas sur la plante, des feuilles moitié rouge, moitié verte, et puis tout en bas, des feuilles vertes. Alors on a dit que les écolos purs et durs étaient comme les pastèques, ils étaient rouges dedans et verts dehors. On aurait pu dire aussi qu'ils étaient comme les poinsettias. Et alors c'est une très belle plante qui n'est pas d'origine de nos pays. Elle est extrêmement abondante, par exemple, aux Canaries, où elle enflamme complètement le paysage en hiver. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile de Noël.
Le Père Noël là, qui est arrivé chez vous, je pense qu'il est arrivé aussi chez vous, il a atterri où là
cette... Il est arrivé sur notre place de compost parce que le Père Noël est une ordure.
Ah oui, ah, oui d'accord.
Là, c'est ce qu'on a dit au cinéma. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui,
c'est ça, oui,
oui.
C'est ça. Alors là, c'est la période où la végétation est au repos.
Complet.
Hein. Donc là, c'est,
complet.
Elle ne fait pas comme nous, quoi. Ça ne gîte pas.
Non, ça ne bouge pas.
Ouais.
Ça bouge pas.
Et donc, elle a déjà préparé ses bourgeons pour la suite.
Tous les bourgeons sont en place. Ils vont tous éclater à partir du mois de mars. Et puis, il peut se passer que l'hiver ne soit pas froid. Auquel cas, ils sont capables, ces bourgeons, de péter déjà à la fin du mois de février. Encore que le mois de février est censé être le mois le plus froid.
Ouais.
C'est au printemps que la sève monte, celle qui alimente les plantes. Sacré printemps, plus que d'habitude, une plénitude en attente. C'est des nimbus, cumulonimbus, venus de Vénus dans les strates. Pluie éclaircie, un effet de pompe sur les composantes chlorophylles.
Alors, toujours Orion au-dessus de nos têtes. Votre antenne de télé là qui clignote, c'est pas des étoiles. Hein.
Non, non, c'est l'antenne de Luttange qui nous apporte maintenant la TNT. Je suis tout content, moi qui suis très moderne, d'avoir la TNT. Ça me permet de voir sur mon écran des quantités de petits carrés, de petits rectangles comme ça. Et puis la voix masculine devient féminine subitement. Tout d'un coup, j'entends plus rien du tout. Puis tout d'un coup, il y a marqué « pas de signal momentanément ». Alors j'attends, puis ça revient, puis ça repart. J'ai dit « je suis très content d'avoir la TNT ». C'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Avant, ça marchait, maintenant ça ne marche plus. Mais
oui.
Bon, ben, c'est le progrès, tout va de mieux en mieux. C'est le tas de progrès. Alors j'ai voulu avoir, enfin ça c'était un acte fou quoi, de faire venir le gars qui avait posé la TNT, mais on l'a pu retrouver parce qu'il fallait faire un numéro kabbalistique, il fallait laisser un message, il fallait se faire rappeler, personne n'a jamais rappelé, on a remis un message, personne ne le rappelle plus jamais. Donc je suis dans la contemplation de mes petits carrés. Ça ne m'énerve pas. Ça m'amuse. C'est cru comme quand on est vieux, on devient sage. Hein.
Oui.
Ça ne m'énerve plus du tout. Quand le train arrive à l'heure, je m'en émerveille. C'est extrêmement rare. À TGV, c'est surtout un truc qu'on attend. Oui. Quand je vais à Paris, je sors d'une réunion à 4 heures. Comme je suis prudent, j'ai pris le TGV à 13h39, à 19h39. Donc j'attends 3 heures le TGV. Donc ça va de plus en plus vite. Grâce au progrès, tout va de mieux en mieux. Je plaisante. Non, je vais être sérieux. Alors je vais être sérieux et je vais dire ceci. Plus la technologie s'améliore, plus le service se détériore. Ça, c'est un aphorisme très important. Au fur et à mesure que la technologie s'améliore, qu'elle est de plus en plus sophistiquée, tout devient de plus en plus fragile et à la fin, ben, ça ne marche plus.
Jean-Marie, toujours dans votre jardin. Vous sortez pratiquement d'ailleurs tous les jours ici. Et même l'hiver, enfin je ne sais pas qu'est-ce qui vous inspire, parce qu'on n'est pas évidemment dans la flamboyance. Mais vous avez quand même besoin d'aller voir vos arbres, d'aller voir le champ qui est juste à côté.
Je m'inspire que dès que je les ai vus, je rentre vite m'installer devant la cheminée en me disant « je reviendrai la prochaine fois, tenez bon ». Et d'ailleurs, ils tiennent bon.
Hein. Ah oui.
Ils sont adaptés au froid. Et puis, il y a le petit chat qui est là aussi. Alors, le petit chat, il n'a pas été élevé par nous, donc il a de mauvaises habitudes. Il fait pipi sur le tapis. Alors, du coup, on le met en fuite. Mais il a un grand défaut, ce chat. Moi, je l'aime beaucoup, c'est Félix. C'est notre bonne Madame Molle qui est morte maintenant, qu'il avait adopté, ouais. Mais il a un grave défaut, il ne supporte absolument pas que je lise. S'il est sur mes genoux et que je lis, il donne des coups de tête contre le bouquin pour que je le caresse.
Mais ça, c'est pas,
et même, si je tiens le livre avec une seule main et que je le caresse avec l'autre, ben ça ne lui suffit pas. Il veut les deux mains.
Bien sûr.
Voilà, ça c'est notre chat. Non,
c'est pas que le vôtre, hein, je vous rassure.
Ils sont tous comme ça.
Ils sont quasiment tous comme ça.
Ah, ben voilà.
Ah, oui, non, c'est le chat, ça.
C'est le chat.
Non, c'est pas votre chat Lorrain qui est.
C'est bien mon chat.
Je comprends bien. Vous avez parlé de la cheminée, on va rentrer. On va donc laisser ce ciel qui est semi-étoilé, mais qui quand même nous a
permis. Il étoilé tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on voyait à peu près Orion.
Oui.
Et là, c'est
Orion se cache.
Orion se cache. Et on va en faire autant.
On va faire autant.
Voilà. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter
On peut souhaiter, premièrement, qu'on ne dise pas moi d'abord et qu'on pense aussi aux autres avec de l'amour pour eux. Et les autres, c'est le prochain. C'est pas celui qu'on repère sur Internet et qui habite en Patagonie.
D'accord.
Et qu'on va aller voir avec Ryanair parce qu'on paiera 1 euro pour aller en Patagonie. Et on dépensera une quantité effroyable de carbone, plus que tout le temps qu'on a roulé en voiture toute l'année.
Bon.
C'était pour dire qu'il faut aussi garder la proximité du prochain, celui qui est autour de nous. La deuxième
pour relocaliser le prochain.
Relocaliser le prochain. Très belle expression. La deuxième idée, c'est que ce n'est pas la peine de faire comme le voisin par mimétisme. Ça, c'est une force effroyable dans l'humanité. Tout le capitalisme marche que sur cette idée-là.
Le copier-coller, l'imitation.
Oui. On fait tout pareil que le voisin. Si on achète un engin dans la maison à côté, il faut absolument que j'achète le même engin, tout à fait cessant. D'ailleurs, la pub le dit, il faut obéir à la pub. Bon, la troisième idée, c'est qu'il ne faut pas être jaloux de ceux qui ont l'engin si on ne l'a pas. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin.
Bon, c'est très très bien. Et puis on va se retrouver l'année prochaine, on va dire ça.
Oui, l'année prochaine dans le jardin.
Voilà.
Et ainsi tous les ans pendant 100 ans.
Oui.
Parce qu'on m'a réparé cette année mon cœur. le chirurgien a dit, vous ai donné 10 ans d'espérance de vie en plus. Ben, nous avons pris immédiatement un rendez-vous dans 10 ans pour recommencer encore une fois. Mais il m'a fait un coup un petit peu embêtant parce qu'il m'a mis une valve dans le cœur qui vient d'un veau et la valve, elle ne tient que 30 ans. Oh. Alors j'ai donc calculé.
Ça vous fait 106 ans.
Oui, donc ça. J'ai pris un rendez-vous aussi. Quand j'aurai 106 ans pour qu'on mette une nouvelle valve.
Et maintenant vous regardez les vaches avec beaucoup d'affection dans les prés.
Beaucoup plus qu'avant.
Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Marie. À bientôt.
Allez. Au revoir.
Et on rentre. On y va. Allez. Ah, on est coincé là. C'est pas... On va pas rentrer. Bon, écoutez, on va quand même continuer l'émission. Ah, je vous ai pas dit, de la Lorraine, on va passer aux Vosges.
Oui.
Et là, on va pas avoir de vaches, mais on va avoir un cheval de trait.
Oui.
Vous allez voir, donc c'est avec un homme tout à fait intéressant.
Oui.
On va débarder, on va sortir du bois.
Oui, c'est ça le débardage. Hein, c'est sortir du bois.
C'est ça.
Pourquoi vous voulez sortir du bois dans les Vosges?
Ben, vous allez voir, vous allez comprendre.
On va regarder.
Ah, oui, on va écouter. Ah, ben oui, bien sûr.
Et quand on écoute, on souhaite d'être entendu.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
La recherche entre nous, c'est pas du temps perdu. Tous ces voyages en vous, ces milliers de mollusques. Je dévorais des livres, avalais des histoires. Puis des trains sur un titre, une phrase de départ. Aujourd'hui, sans effort, je m'endors à la dure. Pour effeuiller ton corps, froisser les couvertures. Les bus à cacher sur les toits te crieront. De ta réalité dépasse mes fictions. En attendant Becker, nous deux on se décote. Sans se prendre la tête. Y'a pas que les litotes. La recherche entre nous, c'est pas du temps perdu. Tous ces voyages en vous, ces milliers de mollusques. J'ai arraché des pages aux nuits blanches et grelottes. Recroqué des visages, des ruines palottes. En attendant Becker, nous deux on se décote. Sans se prendre la tête. Y'a pas que les litotes. En attendant Godot, on s'offre des godets. Plein de bulles cadeaux. Des soucis cadets. À la danse des mots de Marquez ou Lorca. Je préfère le tango de nos corps sous les draps.
En attendant Godot et surtout en attendant Becket, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice sur France Inter, c'était Art Mingo, CO2 Mon Amour avec vous en direct. J'espère que vous allez bien. Tenez, respirez. Après la Moselle, la Lorraine de Jean-Marie Pelt, les Vosges. Tout d'abord, ce sont des odeurs de terre des odeurs d'humus lavées par une pluie tout à fait récente. Le décor, c'est une forêt avec un chemin extrêmement pentu. Forêt des Vosges, puisque nous sommes dans la réserve naturelle du Grand Ventron. Un joli silence de forêt, quoi, c'est-à-dire un silence habité. Et on va s'approcher de l'homme et de sa bête.
Ist, on travaille, allez. Ist.
Un œil averti, vous direz qu'il a hérité du cul de l'Ardennais, qui est le point de force, hein, il n'y a pas de mystère du cheval de trait. Donc, disons, pour sa taille, c'est assez extraordinaire ce qu'il arrive à tirer. Bon, là, il frime un peu, parce que dès qu'il y a du public, il sait très bien que je ne peux pas me fâcher. Alors, il en profite sans scrupule.
Ah, c'était pas la même saison, mais je vous emmène malgré tout en forêt, non loin d'une chaume, donc celle du Grand Ventron, dans les Vosges. Alors on est pile poil sur une crête entre les Vosges alsaciennes et les Vosges lorraines, et c'est peut-être un des coins les plus sauvages du massif parce que l'homme, dans sa grande montée, l'a très peu perturbé. Bon, la vérité, c'est qu'il est quand même relativement inaccessible et ça aide. Le lynx sait tout cela et s'y balade tout à fait régulièrement. Alors nous, on va rencontrer une autre bête de plusieurs quintaux, un cheval bien polyvalent. Alors, pas très très bon pour le quintet plus, hein, faut le dire. Et sa plus belle conquête, c'est l'homme. Le nôtre a un casque, une barbe. De loin, il a un petit côté Don Quichotte. Et cet homme-là pousse sur des pentes à 20% minimum, là où il n'y a plus de pistes forestières, dans des endroits impraticables pour le moteur. Rencontre cet après-midi avec Francis Dopf, non loin de Wildenstein. Donc, on est du côté du Haut-Rhin. Vous ouvrez vos naseaux, vous fermez les yeux. Ce n'est que de la radio. Ça sent le sapin et Francis Dopf est un passionné de forêt et en plus possède un humour tout à fait délicieux, ce qui ne gâche rien. Ah, on sent tout de suite, Francis, que votre cheval a quand même un vrai caractère.
Mais de toute façon, dans la forêt, il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a que les gens qui ont des sales caractères, ils tiennent le coup.
Vous nous faites des présentations?
Oui, alors c'est Morny. Donc,
Morny. Ah, c'est Morny. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a un syndicat dans votre profession, parce que vous savez combien vous êtes ici en France à pratiquer donc, le débardage, mais à cheval.
Bon, écoutez, on est dans les recensements, on dit une cinquantaine, mais bon, il y a beaucoup de gens qui arrêtent, soit parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, soit parce que les conditions sont très difficiles. Ouais. Le jour où ils se mettent à calculer ce qu'ils gagnent, en général, ils arrêtent. Ou sinon, c'est des gens comme moi qui ne savent pas calculer au bout de 20 ans.
C'est-à-dire, on ne compte pas les heures, quoi, en gros.
Voilà, bon, ouais. C'est, disons qu'il y a... Bon, dans tous ces métiers, de toute façon, les métiers de la forêt sont globalement des métiers moins payés que les autres. Hein. Ça, c'est réservé aux fous un peu spéciaux, quoi. Les collègues qui font du débardage, par exemple, par câble aérien, une chose qui est très courante en Autriche.
Qui semble assez écologique, en plus.
Ouais, ah, ok, extrêmement écologique. Extrêmement, et en plus, bon, auquel je m'intéresse beaucoup, le parc des ballons un peu aussi, parce que je pense que combiné avec le cheval, c'est vraiment l'association de l'aveugle et du paralytique, quoi. Disons que c'est pas spécifique au cheval, quoi. On pourrait dire encore ça c'est rétro ces trucs, mais j'ai l'impression que tous les débardages qu'on dirait un peu alternatifs, ça a beaucoup beaucoup de mal à passer.
Alors, quels sont les avantages, je dirais, écologiques du débardage à cheval? Parce que là, donc, nous sommes sur un chemin, on pourrait faire passer un bulle, et puis après, on aurait une piste, mais ce serait quand même sacrément défoncé.
Alors, écoutez, je peux être très franc. Ouais. D'une manière générale, disons, c'est pour la sauvegarde des peuplements, c'est-à-dire il y a des effets, grosso modo, tassement du sol, limitation des dégâts aux arbres en place. Disons, c'est essentiellement pour des raisons sylvicoles. Ouais. Plus les arbres sur pied sont précieux, plus ça se justifie. Le souci, c'est le dégât au peuplement.
Et alors, pourquoi il y a une culture du débardage à cheval ici dans ce massif des Vosges, de même qu'il y avait la culture de la schlitte, enfin, c'est-à-dire du transport par luge?
D'abord parce qu'il y avait beaucoup de manœuvres qui n'étaient pas chères, qu'on n'aurait pas toléré, à l'époque où la forêt était une grande rareté, on n'aurait pas toléré le moindre dégât aux arbres. Hein, j'ai encore vu des comptes rendus de procès-verbaux de la fin du 19e siècle, des gens qui avaient des procès parce qu'ils avaient fait ce qu'on fait là maintenant, tirer des bois tout droit dans la forêt, et sur le procès-verbal, il y avait mesuré en centimètres combien il y avait de dégâts sur les arbres et tout. Donc les chemins de schlittage, c'était la seule façon de passer. Oui. Hein, il y en a ici, bon, quelques-uns, c'est une fois que vous avez le temps, c'est spectaculaire, c'est impressionnant aussi. Bon, quand on a été devenu un peu plus exigeant pour les hommes, On a vite arrêté ça, hein, comme on disait, bon, la grande classique, on disait la schlite crève à la montée et tue à la descente. Pour moi, dans mes proches voisins, hein, donc là où était mon grand-père retraité, le village de la Baroche, je ne compte pas le nombre de gens dont j'ai entendu parler. Quand j'étais gamin, les forêts étaient encore pleines de petites croix en souvenir des accidents de schlitage.
Bon, ça c'est Morny, oui. Ah oui, là, il fait ses besoins oui, juste
oui,
avant.
Oui.
Je comprends, c'est, bon, le, c'est peut-être le stress de la vedette avant de...
Oui, voilà, c'est oui. Quelque chose comme ça.
Là, vous venez de planter...
Alors là, ça s'appelle un crochet plantant, ou sauterelle, ou blitz encore, il y a au moins 15 dénominations pour ça. La particularité, c'est que normalement, quand le bois, quand on tire à contresens, ça se décroche. Morny, doucement, doucement. Ishtrum. Voilà, vous avez vu le principe. Attention, vous êtes dans la trajectoire. Attention, attention, sauvez-vous vite.
Là, il faut expliquer que le tronc est parti tout seul, mais il n'y a pas de dégâts.
Non, mais c'était prévu, mais pas tout à fait là, quoi. Voilà, ça s'appelle du lançage. Hein. Alors d'habitude, on fait avec des quilles, mais...
Donc votre travail, c'est de sortir vraiment le bois des endroits difficiles.
C'est ce qu'on appelle le débuscage. C'est-à-dire là, on est dans le peuplement, vous voyez, il n'y a pas de passage tracteur. Sinon, le tracteur, il utilise un câble. Oui. Et il treuille. Bon, alors si ce gars a beaucoup de temps, qu'il est très soigneux, il tire bien. Mais comme il n'a que la ligne droite pour tirer, bon, ben, il y a des frottements au peuplement. Non, il commence pas à frimer, toi. Hein. C'est moi qui parle, hein. Et les conditions normales d'emploi du cheval, là, c'est chaque fois entre deux chemins.
Ouais. Ça doit quand même vous faire, à lui comme à vous, pas mal de dénivelé dans la journée, ça. Hein?
Oui. Non, ça, c'est surtout du côté de Wildenstein. Alors là, yep, mon grand. Mais c'est bien. Yep, vive. Ist. C'est pas parce qu'il y a du public. Ist. Yep. Yep. Allez. Mais c'est ist. Donc, tu. Ist. Allez, je vais me pâcher.
Vous lui parlez, hein?
Oh, c'est un mélange d'alsacien, de vosgien. En fait, c'est un verrouillage pour le. On peut pas me le voler, quoi.
Oui. Wow. C'est un code.
Voilà, c'est un code. Oui. Quelqu'un qui essaie de me le piquer, il est dans le ravin au premier carrefour.
Alors, quelle est la marque de Morny? C'est un quoi comme cheval?
Alors, lui, c'est un croisé fjord ardennais. Hein. C'est un mélange. Mais un bon mélange, je trouve. C'est un bon cocktail.
Travailler pour qui en fait? Pour du privé, pour du communal?
De tout, hein, aussi bien des. Cet hiver j'ai travaillé. En ce moment je travaille beaucoup pour une scierie. Je coupe, je sors le bois et puis je suis payé.
Alors vous dites que vous coupez, vous êtes aussi bûcheron, donc c'est vous.
Par la force des choses, hein, c'est pas. Disons je suis un très mauvais bûcheron, mais avec le cheval j'arrive à rattraper mes. Disons que le cheval me fait tomber les arbres que je coince, il me fait tourner les arbres que j'arrive pas à tourner. Il me rattrape les bois qui sont dans la mauvaise direction. Alors bon, disons que j'arrive à compenser avec le cheval. Ça a été un peu une nécessité. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas absolument la tronçonneuse. Ce n'était pas la grande passion de ma vie. Mais enfin, je suis m'y faire. Et puis bon, finalement, l'un dans l'autre.
Et la complicité, comment elle s'opère, je veux dire, entre vous? Parce que vous connaissez drôlement bien.
Ah oui, on se connaît. Alors là, bon, c'est une complicité. Je ne sais pas. Là, avec lui, ce n'est pas le super grand copinage. Hein. Je suis un petit peu...
Relation de boulot. Quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, on vous connaît. C'est peut-être un peu aussi des fois qu'il est trop malin. Un de mes maîtres disait toujours que le cheval, ça ne doit pas être trop malin non plus. Parce que, alors des fois, bon, quand il y a une tangente à prendre... Et puis bon, il y a des problèmes. Alors là, on va rentrer dans la psychanalyse. Bon, il a eu une petite enfance assez perturbée.
Ah ben c'est ça.
Donc là, on a un canapé à l'écurie et puis tous les soirs...
Sur la botte de foin, allongez-vous, voilà. Tranquillement.
Voilà, non mais c'est vrai que chez lui, il y a...
Francis Dopp, on peut considérer que c'est un métier d'avenir, ça?
La balle est un peu dans le camp des donneurs d'ordre et... Pourquoi en Belgique, il y a 350 entreprises de travaux forestiers qui utilisent le débardage à cheval? Pourquoi, quand on a passé la frontière, il n'y a plus rien qui marche? Bon, ça, l'oncle de ma femme, il y a moins de 10 ans, dans des forêts comme ça, il avait 3 chevaux de trait attelés à la file qui marchaient qu'à la voie, sans rênes, sans rien. Il sortait des bois de 3 mètres cubes dedans. Bon, c'était pas des incapables. Pourquoi ça a capoté, quoi?
Quelles sont les qualités qu'il faut avoir si on a envie de devenir débardeur? Éventuellement, je ne vais pas dire, est-ce qu'il y a des écoles? Mais
oui, il y a des écoles. Oui, alors je dirais que commençons par là. C'est incontournable aujourd'hui, il faut faire les formations d'école. c'est Mirecourt dans les Vosges, hein, le centre pour adultes de Mirecourt, et Noir et Table dans, je crois que c'est dans l'Allier. Hein, c'est,
oui, les, voilà. Ou le Puy-de-Dôme peut-être.
Voilà, ou le Puy-de-Dôme, enfin bon, ceux qui sont à proximité vont bien trouver où c'est, qui ont des formations. Le problème, c'est comme il y a très peu, voire pas du tout de salariat, vous êtes obligé de vous mettre à votre compte. Et pour vous mettre à votre compte, il faut un diplôme validant.
Comment faut être intellectuellement quand on a envie de faire du débardage?
Comme dit, d'abord, il faut être incurable. Hein. Oui. Faut être incurable. Si on hésite entre ça et autre chose, il n'y a pas à hésiter, il faut faire autre chose.
Puis il faut aimer la nature par tous les temps.
Par tous les temps, je dirais oui, parce que aimer la nature quand il y a du soleil, je dirais, c'est pas spécifique. Bon, comme aujourd'hui.
Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, Francis Dope. Vous saluez Mordi de ma part. Moi, je ne vais pas le caresser parce qu'on ne se connaît pas.
Voilà,
pas
et puis alors, comme c'est un monsieur très spécial, enfin maintenant, c'est pas grave, on termine, mais comme il a l'habitude, la caresse, c'est le signe que le travail est terminé.
Ah, oui,
alors,
oui.
Si quelqu'un le fait avant la fin, c'est un peu comme un.
Je ne veux pas casser
peu,
votre.
Voilà, je suis un peu comme un instit qui doit continuer la classe quand la cloche a sonné.
Merci, Francis.
Voilà,
à
mais écoutez, bon retour. Ah, oui. Emportez un peu de Vosges à Paris, là.
Ça y est. Ça passe. Voilà. Ça passe en transistor, c'est sûr.
Voilà.
Et si vous souhaitez poursuivre la balade, Anne Gouzon, notre cyber documentaliste qui nourrit donc le site de CO2 Mon Amour, a installé le lien de la ferme de Francis Dopf. Merci également à Xavier Pessugia qui a mixé ce petit reportage. Et puis nous allons poursuivre notre voyage, là aussi en compagnie de Cyril Métro et de Stéphane Combe. Nous allons vous emmener sur une langue glaciaire, donc au Groenland. Couvrez-vous, ouais. Mais laissez-vous aller quand même avec Mélodie Gardot.
Was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Beating hurry up the moments fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Élodie Gardot, bébé, I am a fool, je suis un peu dingue de toi, je suis accro à toi, dit-elle. Voilà, et nous allons partir maintenant avec Stéphane Combe sur une longue glacière au Groenland, sur le plus grand réservoir d'eau douce de l'hémisphère nord. Alors c'est une zone de la planète où il fait encore un peu frisquet, donc il faut en profiter parce que vu les brillants résultats de la conférence de Copenhague, je ne vous fais pas de dessin. Et donc nous partons sur une île de plus de 3000 km de long qui est peuplée par 55 000 habitants, majoritairement des Inuits. Ça fond, vous le savez, je ne vais pas vous faire de dessin, ça fond très très vite aujourd'hui. Et au mois de septembre dernier, quand la côte est du Groenland n'était pas encore prisonnière de la banquise, eh bien Stéphane Combe a pu approcher au plus près des langues glaciaires en compagnie de Stéphane Niveau, qui était chef d'expédition et aussi directeur du musée Paul-Émile Victor, de Rémi Marion, qui est spécialiste des ours polaires, et de Gérard Bodineau, qui lui est spécialiste de la flore arctique. Donc CO2 Mon Amour vous invite à marcher sur ces cathédrales de glace.
Куда отброса нужен? На берег? Нет, информацию донести до него. Скажите, что мероприятие дословно.
Ah, c'est sacrément accidenté, hein. C'est pas facile hein, d'atteindre le glacier là.
Là non, on est dans, au milieu des blocs erratiques et des moraines et des drumlins et des équerres.
Là on marche en fait sur de la caillasse. Hein.
Oui, je crois qu'on peut dire ça. Ouais. Là, là, jusqu'au bout. Là. Voilà, devant nous, on a glacé là, à peu près 200 mètres.
C'est là où on s'aperçoit quand même du gigantisme de la façade. Au moins, on a quoi, une vingtaine de mètres de haut, là.
Ouais, je pense que tu peux multiplier par deux, tu n'auras pas de faux. Tu sens le froid du glacier, là.
C'est l'air qui glisse sur la surface du glacier, ça. Il y a de l'eau, hein, il y a un torrent qui sort par cette grotte qui se trouve sur la droite du front glaciaire.
Bien chargé de sédiments, t'as vu sa couleur là.
Il est bien marron.
Bien
hein.
Marron, ouais. Ce qu'on appelle de la farine glaciaire. Et là, tout ça, ça peut s'écrouler n'importe quand. Là. Tu vois, ça fait un surplomb, quoi. T'as un surplomb de glace. À chaque instant, ça peut se casser la figure.
Non, reviens. Si on vous le dit, il faut nous croire sur parole, hein.
Il y avait des gens qui s'étaient un peu trop rapprochés à...
Mais oui, c'est normal, ouais, parce que ça fait quelques centaines de tonnes, quoi, donc sur la tête, ça fait mal.
On va traverser à pied, hein, cette espèce de petit torrent.
Bah, c'est le torrent de fonte, hein, du glacier. Donc une eau un peu turbide, donc on ne va pas toujours en mettre les pieds.
Bah, c'est simple, là, ça y est, je suis dans un trou.
Ça y est, bah,
j'ai de l'eau quasiment jusqu'au mollet.
Ouais.
Là, le glacier qu'on a devant nous n'est pas un grand glacier à l'échelle du Groenland. Hein. Il a son cirque d'alimentation juste au-dessus de nous, dans les montagnes. Donc on peut donner des ordres de grandeur. Tout ça, ça reste des ordres de grandeur, d'âge. Bon, sûrement centaines d'années, bon, peut-être un millier d'années. Par contre, la glace qui est sur la calotte du Groenland, là, ça pourrait être beaucoup plus vieille. Il est en dizaines de milliers d'années.
Cette glace vient donc de la calotte glaciaire qui est dans le centre du Groenland. Pour arriver jusqu'ici, combien de temps à peu près ?
Un morceau de neige, transformé en glace qui s'écoule tout doucement sur les pentes de la calotte, va mettre des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, pour arriver à la côte.
C'est de la neige à la base ?
Oui, bah c'était de la neige qui s'est tout doucement transformée en glace au fur et à mesure que les couches de neige s'empilent au-dessus d'elle, donc la compriment. Bah, sous l'effet de la pression, des changements de température, d'humidité, vont petit à petit transformer le cristal de neige à six branches qu'on connaît tous en une masse de glace quasi compacte. Au milieu de la calotte, en plus, on est à entre 2 et 3 000 mètres d'altitude. Donc l'effet conjugué de l'altitude et bah, de la latitude, c'est-à-dire d'être près du pôle Nord, fait qu'au milieu de la calotte, donc c'est comme dans un congélateur, ça ne dégèle jamais.
Et là, ça se transforme en eau.
Ben oui, parce qu'on est à la périphérie de la calotte, à 0 mètre, enfin quasiment 0 mètre d'altitude, à très près du niveau de la mer, ben en conditions plus tempérées, et l'été, ben ça fond, et c'est ce qu'on observe, hein, la surface du glacier qui est au contact de l'air à température positive, ben fond tout doucement.
C'est un spectacle merveilleux hein, qu'on a en face de nous. Là, on se trouve sur la droite de la langue de glace. C'est étonnant, hein, quand même, parce que là, on est à quoi ? Un mètre de la langue de glace. Moi-même, on peut la toucher. Ouais, c'est frais. Hein.
La surface du dessous de la langue de glace est très très plate. Ça fait comme un plafond avec des centaines de gouttes qui pendent et on entend le bruit de l'eau qui ruisselle. Évidemment, il ne faut pas se risquer en dessous parce que c'est des centaines de tonnes qui peuvent nous tomber sur la tête à tout moment, mais on peut rester à côté et regarder le spectacle sans problème. Une lumière étrange en dessous, on voit un éclairage un peu diffus à travers la glace. On peut voir très loin, on peut voir prendre 40 mètres dans certaines directions où on voit ce plafond uniforme translucide et ces cailloux en dessous. C'est assez magique.
On a du mal à croire qu'on marche sur de la glace. Hein.
Là, tu es sur le glacier et on peut marcher dessus uniquement parce que tu as plein de sable, plein de gravier, donc qui permet d'adhérer.
Regarde Stéphane, il y a une espèce de ruisseau qui vient du sommet du glacier.
Un petit torrent là, sur le glacier, ouais. Donc il s'enfonce là, tu vois, tout de suite dedans. Donc,
s'enfonce dans un trou de glace.
Dessous, c'est creux là. On voit super bien, on entend bien là.
Ça, c'est de l'eau douce.
Ah, c'est de l'eau douce. Hein. Celle-ci,
on va la goûter.
Ah, elle est excellente, celle-ci. Bon, faut pas en boire de trop quand même, parce qu'elle est froide.
Est-ce que sur le plan scientifique, on sait tout du processus glaciaire, de la formation de la calotte glaciaire du Groenland?
Oui, on commence à en connaître quand même largement. Après, si tu veux, ce qui devient compliqué, c'est que tu as une calotte, comme celle du Groenland, et de cette calotte, tu as des milliers de langues glaciaires qui débordent. Et que chacune a sa propre vie. Regarde, là, juste devant nous, on n'avait pas vu encore cette superbe vallée glaciaire. On voit ce magnifique langue glaciaire qui s'arrête en plein milieu de la vallée. Alors, tu vois que cette langue, elle s'arrête au milieu de la vallée, alors que celle-ci, elle arrive en mer.
Ouais, celle qui est sur la droite.
Il y a 4 ou 5 km de distance entre les deux. Alors, bon, voilà, on essaie de comprendre pourquoi. Tu regardes cette langue glaciaire, tu te dis, bon, bah, finalement, tout va bien.
Le glacier, elle tombe dans la mer, le glacier avance.
Et si tu regardes 1 km à côté, l'autre, il est 5 km derrière. Donc, tu vois, c'est très difficile de pouvoir se prononcer sur l'âge de la glace, se prononcer si ça fond ou si ça fond pas, même si on est d'accord tous pour dire qu'en effet, on peut constater de toute façon que tu reviens d'une année sur l'autre ou tu prends des photos d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois très très bien qu'il y a des mutations paysagères, mais c'est pas en regardant un front glaciaire que tu peux dire si ça va mal ou pas. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de personnes qui se déplacent sur les glaciers, qui font des photos aériennes, qui surveillent les glaciers puisque tu as des signes extérieurs sur la glace, des lignes sur la glace qui te permettent en fait de calculer toutes ces vitesses d'écoulement, calculer si le glacier a un bilan de masse ou pas, c'est-à-dire qu'il fabrique plus de glace qu'il n'en font, etc. Donc c'est ça, c'est ces données-là qui te permettent d'affirmer certaines choses. C'est un peu plus complexe.
Hein, vous avez fait attention, j'espère, vous avez remarqué que vous avez failli prendre des grumes de bois et des troncs dans la figure tout à l'heure. Là, c'était quand même des gros morceaux de glace. Merci d'abord à Stéphane Co. Merci aussi à l'agence Grand Nord Grand Large pour la réalisation de ce reportage. Et puis aussi rendez-vous demain, donc toujours sur France Inter, c'est à 16h pour reparler du Groenland dans l'émission de Sandrine Mercier, donc au détour du monde qui partira sur les traces de Paul-Émile Victor. Et dans quelques instants, on va retrouver une jolie petite voix, ce sera celle de Jean Carmet.
About it. je serais un arbre ou bien une tulipe, un océan ou même un bidon d'huile recyclée, ben je me ferai interviewer par Denis Chesson dans CO2 Mon Amour.
Allez, carrément, ben oui, absolument. Eh ben, c'était Trois petits oiseaux, c'est très mignon. C'était Bob Marley, un homme qui a beaucoup fait pour les plantes. Si, si, absolument, il a fait évoluer l'herboristerie, il n'y a rien à dire là-dessus. Tenez. Alors là, ce n'est pas une balade écologique, ou alors c'est de l'écologie, on va dire tendance cépage de Cabernet Franc à Bourgueil. Juste un petit croquis retrouvé comme ça dans mon grenier à voix, ben, c'est Jean Carmet. Jean Carmet, bien sûr, comédien, un homme qui aimait la vigne, donc la nature, et qui adorait aussi son bordeloir dont il avait besoin.
Le pays d'où je suis originaire, c'est Bourgueil. Et Bourgueil a longtemps appartenu au département du Maine-et-Loire, alors qu'il est maintenant dans l'Indre-et-Loire. Ça, je l'ai toujours connu dans l'Indre-et-Loire. Ce coin de la Touraine et ses confins de l'Anjou, c'est un élément essentiel pour moi pour me regonfler. C'est pas un climat tonique, hein. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est un climat un peu lourd. Il y a un ciel volontiers nuageux, hein. Un ciel qui se reflète sur la Loire. J'ai une passion pour les fleuves et une super passion pour la Loire. La Loire, c'est une chose absolument imprévisible. Il y a des accidents, il y a des remous, il y a des choses qui vous absorbent dans la Loire. Et il y a le soleil, ce soleil diffusé. Quoi qu'il arrive, il y a toujours, même quand le ciel est bleu, il y a toujours des dominantes mauves dans les éclairages de la Loire. Et c'est pesant et dynamique à la fois. C'est inhumain tellement c'est beau. Ça me procure une paix totale. Même quand il n'y a pas le silence, j'ai un silence qui s'installe au milieu de ces paysages-là. Et puis il y a la présence de la vigne, parce que tous les paysages de vigne sont sublimes. Ce sont des paysages qui donnent soif. Et puis il y a des odeurs dans les pays de vigne, surtout en ce moment où c'est le moment de la vendange. Il y a des choses, ça sent le raisin. J'ai l'impression que le ciel de la Touraine, hein, l'atmosphère même, absorbe les odeurs mais les redistribue. C'est-à-dire qu'elle doit tenir les odeurs en suspens.
Fin de CO2 Mon Amour cette semaine. Merci à Céline Bézi, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture d'Annecy, et Cyril Métro qui réalisait cette émission. Merci à lui aussi pour ses mixages. Anne Gouzon a nourri les sites. Muriel Pérez nous a gratifié les disques. Et puis, moi je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Demain, ce sera l'Atu du Mont-Petit-Loup vers 19h54 après les petits bateaux. Lundi, toute la semaine à 14h dans la tête au carré, en remplacement de Mathieu Vidard. Je commencerai l'émission lundi avec Jean-Louis Étienne. Et puis la semaine prochaine, on se retrouvera aussi en direct. Vous aurez des chansons, de l'environnement, des chants d'oiseaux et encore plein de choses que nous ignorons les uns et les autres. Excellent week-end à tous. Vous restez avec nous sur France Inter. Écoutez Fabienne Chauvière.